Et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Fréquence Mistral à Digne-les-Bains 99.3. Je m'appelle Basile, je suis en compagnie de Mathieu, Nils et Lucas. Ce soir, nous nous penchons sur l'histoire de Vilebrequin, un duo emblématique de la scène automobile française sur YouTube. Dans un premier temps, nous allons donc vous parler de ce duo. Puis dans un second temps, nous allons donc vous parler des expositions des personnalités sur Internet. Ces deux passionnés de voitures se sont rapidement fait connaître pour leurs vidéos innovantes et leur humour décalé. Mais voilà, après des années de succès, l'aventure a pris un tournant inattendu. Comment en est-on arrivé là? Trahison, projet incroyable, chiffres fous et clash à 300 à l'heure, aujourd'hui, on démonte le mythe Vilebrequin, on remonte le fil et on vous dit tout ce que vous n'avez jamais osé imaginer sur l'un des duos les plus explosifs du YouTube auto. Et tout de suite, on vous laisse écouter Stromae de Carmen.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi
et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi, si tu t'aimes, garde.
L'amour est enfant de la consommation, il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
Regarde à toi.
Mais j'en connais déjà les dangers, moi j'ai gardé mon ticket, s'il le faut je vais les changer moi.
Regarde à toi.
Et s'il le faut j'irai me venger moi. Cet oiseau de malheur je le mets en cage, je le fais chanter moi.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 comme ça qu'on somme, somme, somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 comme ça qu'on somme, somme, somme.
Un jour t'achètes, un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes. Un jour tu verras, on s'aimera. Mais avant, on crèvera tous comme des
Et nous voici de retour, c'était donc Carmen de Stromae. On va donc parler maintenant du duo Vilebrequin. Est-ce que le duo Vilebrequin était si célèbre que ça, Lucas?
Bonsoir, eh ben, on peut dire, oui, au vu des chiffres, que Vilebrequin était quand même assez emblématique sur la chaîne, sur la scène YouTube française, pardon. Ils vont en vérité créer leur chaîne en 2017 pour finalement exploser aux yeux du grand public seulement en 2019 en prenant 300 000 abonnés en l'espace d'un an. Pour résumer, le duo Vibrequin, dans leurs meilleures heures, c'est sur, par exemple, le mois d'août 2024, 600 millions de vues, pardon. Et on a estimé, globalement, des revenus générés par la chaîne uniquement par la monétisation allant de 10 000 à 20 000 euros en 30 jours. Ce qu'on peut noter aussi, c'est l'engagement de leur communauté qui, quand Vibrequin va réclamer une somme de 50 000 euros à la réalisation d'un projet dont on va vous parler plus tard, ils ont, au lieu de lever 50 000 euros, levé 1 million d'euros, ce qui est une somme quand même assez conséquente.
Eh bien, merci bien. On voit effectivement que Vibrequin est un groupe du coup qui prend de plus en plus d'importance. Et dites-nous, Nils, quel contenu et concept pouvions-nous retrouver sur la chaîne ?
Donc, on retrouve principalement quatre types de concepts. Donc, en premier lieu, ce qu'ils ont fait au début, les guides d'achat, avec des tarifs donnés. Par exemple, quelle voiture à moins de 3000 euros pour un jeune permis, etc. Quelle voiture ne pas acheter, justement, parce que pas fiable. Après, les vidéos atypiques du duo, qui les ont rendus vraiment célèbres, comme prendre un Dodan à 170 km/h, mettre des ailes sur une voiture, est-ce que ça vole ? Passer la première à 130, ça fait quoi ? Surtout sur une petite Saxo. Rouler avec 2 grammes, ça fait quoi ? Eh oui, ben, c'est pas beau à voir. Percuter un mur à 150, qu'est-ce que ça fait ? Eh ben, c'est pas beau à voir non plus. Ensuite, il y a des essais de voitures iconiques qui ont marqué l'histoire de l'automobile, comme la Lancia Delta S4, engagée dans le groupe B dans les années 80. L'essai de la Peugeot 306 Maxi, qui a suivi le groupe B dans le groupe A et par la suite quand le groupe B a chuté. La Citroën Xara WRC de Sébastien Loeb et d'autres voitures plus de série cette fois-ci, mais tout aussi iconiques comme les Ferrari F12 Tour de France, GTC4 Lusso et autres Pagani Huayra. Et enfin, le format Vultec, où en gros, il nous raconte l'histoire de marques ou de compétitions automobiles, comme par exemple la marque BMW, la marque Porsche, ou encore en compétition comme les 24 heures du Mans, et l'histoire du rallye passant du groupe B au groupe A, et enfin au WRC, le World Rally Championship.
Ben merci bien pour ces informations. Moi, je vous invite quand même grandement à aller voir du coup la vidéo se prendre un mur à 150 km/h pour ceux qui s'amusent à rouler sur la route. Vous voyez les dégâts que ça peut faire. Mine de rien, moi, ça m'a fait grandement prendre conscience des dangers de la route. Mais par la suite, que s'est-il passé, Mathieu ?
Alors, bonsoir. Alors que tout se passait bien pour cette chaîne, sans prévenir, très brutalement, le 7 décembre 2023, donc sort la vidéo d'annonce qu'a fait Sylvain et Pierre pour annoncer l'arrêt de Vibrequin. Cet arrêt est très soudain. Enfin, elle sort après une vidéo qui a très très bien marché. Et dans cette vidéo, ils expliquent la raison de l'arrêt de la chaîne. Malgré tout, on a quand même pu retrouver les deux compères dans une émission Top Gear France pour la 9e saison qui a été diffusée sur RMC Découverte en 2024. Donc Top Gear, c'est une émission initialement anglaise qui...
Très bien, un petit mot sur Top Gear, Nils, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est et quel est le concept ?
Ben moi, en tant que fan, j'étais assez surpris et agréablement d'ailleurs que ce soit eux qui reprennent Top Gear, parce qu'à la base, c'est fait par des Anglais. Et c'est des Anglais complètement ravagés. Hein, ils traversent la Manche avec des voitures amphibies. Ils vont sur l'autoroute avec des caravanes qui font 6 mètres de haut. Ils détruisent des voitures. Ils font du Vilebrequin, en fait. Hein, enfin, non, Vilebrequin a fait du Top Gear, voilà. Et donc quand c'est eux qui ont repris les manettes, effectivement, moi je me suis dit oui, c'est clair, c'est eux qui devaient reprendre les manettes de Top Gear parce que c'était la suite logique en fait au final.
Voilà. Effectivement, pour moi aussi ce sont les légitimes successeurs de Top Gear et qui d'autres auraient pu les remplacer, personne selon moi. Mais si on pouvait revenir un peu sur cette séparation, Mathieu, est-ce que tu peux nous dire un peu ton ressenti sur qu'est-ce qui s'est passé ?
Et ben alors, en revoyant la vidéo, bah, malgré que initialement tout le monde pensait que la vidéo s'est séparée, enfin ils se sont séparés juste parce que c'était leurs avis divergés et leur projet ne convenait plus du tout avec Villebrequin. En revoyant la vidéo, on peut voir sur le visage de Sylvain quelques mimiques qui annoncent que finalement c'est peut-être, enfin derrière cela il y a peut-être quelques mensonges et des problèmes potentiellement plus graves qui ont annoncé, enfin à l'origine de cet arrêt brutal.
Et effectivement, cela cachait bien quelque chose, puisqu'un objet à l'origine des tensions actuelles, le multiplat, c'est quoi Nils, ce multiplat ?
Eh ben, c'est un projet de folie hein, qu'ils ont eu suite à la cagnotte qu'ils ont fait, dont Lucas vous a parlé. Le principe, c'était de prendre un multiplat. Donc un multiplat, c'est certainement la voiture la plus moche du monde. Hein, la voiture avec le bourrelet en bas du pare-brise, là, c'est avec l'Audi A2 et puis la Peugeot 1007, franchement... voilà quoi, si vous aimez pas l'automobile, allez-y. Hein. Et ils se sont dit, on va en faire un bolide de 1000 chevaux. Donc en ajoutant des ailerons, en ajoutant par exemple le pot d'échappement de Pagani avec les quatre sorties au milieu, des petits clins d'œil comme ça. Ça a coûté 1 million d'euros. Et puis voilà, donc ce projet a été mis en place. On l'a vu rouler dans plusieurs vidéos d'ailleurs, comme... au début des 24 heures du Mans, ils ont fait une vidéo, ils l'ont montré, ils l'ont roulé, et d'autres roulages dans d'autres vidéos, notamment qu'avec Sylvain après la séparation de Villebrequin.
Et effectivement, un projet du coup qui a pris une ampleur, on ne s'est jamais vu d'avoir transformé un bolide aussi effectivement dégradé, aussi mal vu dans le monde de l'automobile en un bolide, une voiture de course. Et puis malheureusement, ça a mené à des accusations, des réponses et du troll. Lucas, est-ce que tu peux nous rappeler comment les événements se sont déroulés ?
Eh bien, oui, tout à fait. Globalement, bon, si on vous parle aussi aujourd'hui de cette séparation, c'est parce qu'elle a malheureusement pas spécialement bien fini, car le 15 août 2024, Pierre publie une vidéo sur sa chaîne intitulée « La vérité sur Villebrequin et le multiplat ». Dans cette dernière, Pierre accuse Sylvain de s'être approprié le multiplat sans se concerter, et critique même le prix de rachat de cette même multiplat de Sylvain. Donc, pour rappel, la cagnotte qui a été levée pour le multiplat était d'un million d'euros. Le prix de rachat de la multiplat a été de 132 000 euros, ce qui est une grande différence, je vous l'accorde. De plus, dans cette même vidéo, Pierre critique la mise à l'écart qu'a réalisé Sylvain vis-à-vis de Pierre. En effet, à la fin du duo emblématique, Pierre se plaint d'avoir été mis à l'écart et de ne plus participer pleinement au projet Villebrequin. Mais ça ne s'arrête pas là, car 6 mois plus tard, en janvier 2025, Sylvain va répondre à Pierre dans une vidéo dans laquelle celui-ci va nier la totalité des accusations portées sur lui et va également accuser son ancien collègue de détournement de fonds avec l'argent du compte commun de Villebrequin. Et dans cette même vidéo, Sylvain va justifier le rachat du multiplat du fait que Pierre voulait exposer simplement le multiplat, ce qui n'aurait pas fait sens avec les directives de Villebrequin et de l'ambiance générale qui régnait sur cette chaîne.
Et effectivement, du coup, par la suite, on a pu voir que ça a été beaucoup médiatisé, les deux vidéos. La première, celle de Pierre, compte, je crois, 3 millions de vues, alors que celle de Sylvain a vraiment frappé le monde du YouTube français avec 13 millions de vues. C'est la vidéo la plus vue de la part de Sylvain sur sa chaîne, mais aussi aucune vidéo sur Villebrequin n'avait fait autant de bruit, ce qui prouve à quel point ça a eu un impact. Est-ce qu'on pourrait avoir ton avis, Nils, vis-à-vis de ce clash ?
Eh ben moi, je pense que... Enfin, j'ai vu ça un peu de l'extérieur parce que j'étais plus trop affilié à Villebrequin, même si je regardais encore pas mal de vidéos. Mais voilà, donc moi, je trouve que effectivement, c'était surtout pour faire parler le fait qu'ils se soient clashés un peu entre eux. Voilà. Après, il faut savoir que ça a ramené des gens qui n'étaient pas dans l'automobile et dans l'esprit Villebrequin. Et c'est pour ça qu'ils ont fait autant de vues, c'est parce qu'on en a entendu parler partout sur les réseaux sociaux, et puis avec les hashtags et compagnie, ça s'est répandu très vite sur tous les fils d'actualité. Et donc moi je pense que oui, ça a fait rire beaucoup de monde aussi, parce que c'est pas des gosses quoi, enfin on pose pas tous nos trucs comme ça là en se traitant de tous les noms quoi.
Effectivement, du coup, une exposition qui peut mener à bien des risques. Mais Mathieu, toi aussi, tu suivais plutôt assidûment la chaîne. Est-ce que tu peux nous expliquer ton ressenti ?
Eh ben, je suis assez d'accord avec ce que dit Niels. Je trouve ça vraiment dommage, déjà, pour leur image, donc à eux deux, et surtout pour l'histoire de Villebrequin. Enfin, c'est, faut quand même se rappeler que c'est deux amis qui se sont rencontrés lors d'un blablacar et qui ont eu l'idée de créer cette chaîne. Et donc vraiment, pour moi, ce drama, c'est vraiment dommage, parce que ça... ils auraient pu partir avec une image très propre de Villebrequin, mais pour quelques fautes d'ego ou quelques raisons un peu obscures, ils ont décidé de créer un drama qui a pris des proportions assez énormes.
Effectivement, et Lucas, qu'en penses-tu ?
Non, c'est particulièrement dommage que deux amis de longue date finissent par laver leur linge sale en public. Ça n'a pas spécialement sens de retrouver de telles informations sur Internet, c'est vraiment dommage.
Effectivement, un avis que je partage tout à fait, ce qui aurait pu être une discussion privée est devenu un spectacle public. On a vu comment une séparation professionnelle a dégénéré en une affaire médiatique. Maintenant parlons des conséquences, l'exposition médiatique des créateurs et la toxicité des réseaux sociaux. Mais avant, on va vous laisser avec Bonjour, le conte de Monte Cristo de la chaîne YouTube Fraise Mente.
Tournez comme ça. Bonjour, je suis agriculteur et je n'ai jamais vu quelqu'un se faire labourer comme ça. Elle est longue la killcam. Bonjour, je suis Frédéric de Carglass et je n'ai jamais vu un impact aussi gros. Pierre Chabrier serait parfait. Incarner le comte de Monte Cristo. Bonjour, je suis tailleur de pierre et je n'ai plus de boulot. Le niveau de démontage est tel que même Ikea a demandé le tuto. Bonjour, je suis zoologiste et je n'ai jamais vu une espèce s'éteindre aussi vite. Même Louis Suez, il est choqué. Aussi Freddy, et je n'ai jamais vu quelqu'un se faire déglinguer de cette façon. Bonjour, je suis gastro-entérologue et j'ignorais qu'on pouvait se la faire mettre aussi profond. Mais Oppenheimer est choqué d'un tel pouvoir de destruction. Bonjour, je suis opticien, je n'ai jamais vu une telle correction. Et je n'ai jamais vu une mise en PLS aussi efficace. On n'avait pas vu pareil, migration depuis l'âge de glace.
Et nous sommes de retour, il est 19h43, nous avons donc écouté Bonjour, le conte de Monte Cristo de Fraises et Mentes. Vidéo débat sur Twitter, déferlante de commentaires, aujourd'hui les créateurs ne peuvent plus éviter l'exposition médiatique et parfois cela prend des proportions incontrôlables. Comme on a pu l'écouter là dans cette musique, c'était une compilation de tous les commentaires que nous avons pu retrouver sous la vidéo de Sylvain. Comme vous avez pu en voir, il y en a qui sont plus ou moins sympathique et délicat, ce qui a pu faire rire ou décevoir certaines personnes. Lucas, que nous disent les chiffres sur la pression que subissent les créateurs de façon générale ?
Pour ce qui est des créateurs de contenu sur Internet, donc comme je vous l'ai dit plus tôt, sur un seul mois, Vilebrequin était capable de générer 600 millions de vues. Donc quand tous ces viewers se retournent contre vous pour des commentaires pas spécialement sympathique, ça devient vite assez compliqué à gérer. Pour vous donner un chiffre, on estime que sur l'internet français, c'est 2 insultes qui sont mises en ligne par seconde, soit 2 fois plus que l'année précédente. Donc vous imaginez bien qu'à l'échelle d'une chaîne qui cumule 2,5 millions d'abonnés, les conséquences sont assez terribles. On parle de cas où 58% des personnalités publiques victimes de cyberharcèlement affirme avoir une perte de confiance en elle, voire même 29% de ces personnes ont envisagé le suicide au moins une fois dans leur vie.
Effectivement, du coup, des données qui sont très inquiétantes et qui peuvent du coup engendrer parfois la mort, malheureusement. Nils, en tant que spectateur, qu'est-ce que tu penses du coup de ce déferlement de haine ?
Ben voilà, donc moi, mon ressenti de l'extérieur comme ça, je trouve que effectivement. On a tendance à oublier qu'il s'agit d'êtres humains et puis que ben c'est pas des chiens quoi. Enfin, on n'a pas à se traiter de cette façon, surtout de s'envoyer comme ça suite à lui il a dit ça donc oh là là on va vite suivre et puis on va se mettre de son côté parce que en fait il a raison, il a démonté l'autre et tout. Du coup on se met du côté du vainqueur de la bataille en fait on va dire. Et puis du coup c'est vraiment ce troupeau de moutons de panurge là qui suit d'un côté et de l'autre, parce qu'en plus souvent c'est les mêmes qui postent les insultes pour l'un et puis après pour l'autre. Alors bon, moi je trouve ça un petit peu ridicule et puis enfin faut grandir aussi du côté des viewers.
Exactement. Mathieu, est-ce que tu as un mot à dire là-dessus ?
Et bon, je suis tout à fait d'accord. Enfin, c'est vraiment au-delà de certains qui sont drôles, enfin faut se l'avouer, c'est quand même assez dommage parce que enfin, faut se mettre à la place de Pierre et de Sylvain aussi. Enfin, recevoir ça tous les jours, enfin, ça a duré à peu près 2-3 semaines. Ça doit être très très pesant pour le moral. Donc, c'est vrai que...
Effectivement, et puis même à mon avis, ça continue encore et encore. Certaines personnes parlent du clash de l'année sur Internet et je suis à peu près tous vis-à-vis de. Je suis tous les deux votre avis, où effectivement, je trouve que les personnes n'ont pas vraiment d'opinion et basculent un coup à droite, un coup à gauche. Les personnes n'ont pas vraiment d'opinion, effectivement. Est-ce que, Lucas, tu peux nous montrer un peu les flux qu'il y a eu vis-à-vis des abonnés entre les deux chaînes ?
Eh bien, tout simplement, après la publication de la vidéo de Pierre, le nombre d'abonnés de Sylvain va chuter de manière drastique, avec une perte estimée à environ 160 000 abonnés en moins. Inversement, quand Sylvain publie sa vidéo à lui, c'est pour Pierre que ça se passe mal, parce qu'il perd environ 70 000 abonnés en 24 heures, là où Sylvain, sur une durée d'une semaine, va récupérer plus de 400 000 abonnés. Donc pour les créateurs de contenu, un tel mouvement, c'est une perte de bénéfices, puisque tout simplement moins d'abonnés égale moins de vues, et donc moins d'argent généré. C'est donc un manque à gagner pour les créateurs de contenu.
Effectivement, et puis je crois que YouTube ont d'ailleurs souligné ce petit passage. Il me semble que lors de la publication de la vidéo de Pierre, Sylvain est du coup passé en dessous de la barre des millions d'abonnés. Il avait du coup déjà un premier trophée. Mais en publiant lui-même sa réponse au Clash, il est de nouveau repassé et YouTube leur a envoyé un trophée avant Clash et un après Clash. Maintenant, on va parler un peu plus du cyberharcèlement et du déferlement de haine. Quand un créateur est au cœur d'un bad buzz, la réaction du public peut être violente. Lucas, qu'est-ce qu'on observe sur les réseaux ?
Ce qu'on peut observer sur les réseaux, je vais vous donner un chiffre qui je pense va assez vous frapper, c'est qu'on a recensé sur l'année 2024 un total de 45,6 millions d'insultes sur le réseau X adressées à un simple panel de 4600 personnalités publiques. Donc si vous faites rapidement la division, vous allez vous rendre compte que le nombre de messages d'insultes écrits est assez conséquent.
Effectivement, est-ce que Nils, tu peux nous évoquer ton point de vue là-dessus ?
Effectivement, moi j'ai vu les commentaires, je les ai lus, j'ai rigolé parce que je trouvais ça ridicule. parce que je trouvais ça drôle aussi. Mais en fait, de l'extérieur, tu rigoles parce que tu réfléchis pas. Et puis en fait, quand tu as été témoin, puis on va dire un petit peu mêlé à l'histoire d'une histoire de cyberharcèlement, justement, on se rend compte effectivement que c'est pas drôle du tout et puis que faut vraiment pas rigoler, même si on peut en parler à des adultes, parce que quand c'est arrivé, j'étais pas un adulte, et on parlait à des adultes, et même s'il le faut, aller voir même plus loin, déposer plainte, etc. C'est vraiment important.
Et oui, du coup, une situation qui touche de plus en plus de personnes et aussi de plus en plus jeunes, puisque les jeunes ont accès aussi au réseau et sont du coup plus vulnérables et aussi à un plus jeune âge. Mathieu, est-ce que tu as une opinion là-dessus ?
Bah, c'est vrai que c'est vraiment extrêmement grave. Enfin, déjà, le harcèlement tout court, c'est inacceptable. Mais en plus, sur les réseaux, enfin, les gens se cachent vraiment derrière leur anonymat que génèrent les réseaux sociaux. Donc, vu qu'ils ne sont pas devant les personnes, c'est beaucoup plus facile. Puis surtout, ils ont souvent des faux noms. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile.
Effectivement, du coup, je pense que ce n'est pas la même chose de publier et d'écrire quelque chose derrière son écran, alors que le dire en face de la personne, bah, il faut avoir le cran et le courage de le dire. On parle beaucoup des créateurs, mais qu'en est-il de ceux qui alimentent ces lynchages. Lucas, est-ce que tu as quelque chose à nous expliquer là-dessus ?
Bah, déjà, il faudrait souligner en France un manque de sensibilisation vis-à-vis du cyberharcèlement, car si on fait la moyenne mondiale, on estime que 70% de la population mondiale est sensibilisée au cyberharcèlement, là où en France, seulement 50% de la population est sensibilisée à ça. De plus, il y a une récente étude qui a été faite où on demande aux Français est-ce qu'ils pensent être capables d'identifier des cas de cyberharcèlement. Seulement 39% ont répondu favorablement à ce test.
Ok, du coup, des chiffres qui font effectivement assez froid dans le dos. Est-ce que, Nils, tu as une idée, quelque chose qu'on pourrait faire pour limiter cela ?
Bah déjà, limiter l'accès aux jeunes. Parce que, bon, globalement, un adulte, il va le subir, le cyberharcèlement, comme un enfant. Sauf qu'il ne va pas le subir pareil, il ne va pas le vivre pareil. Et il va peut-être être plus grand et pouvoir peut-être mieux le surmonter, un adulte. Et aller sur le Play Store et juste cliquer sur « Oui, j'ai plus de 13 ans ». En se connectant à Snapchat ou Instagram, pour moi, c'est pas suffisant. Il faut vraiment, pousser des leviers sur ces endroits-là pour limiter vraiment l'accès aux jeunes.
Effectivement, je suis tout à fait d'accord. On peut notamment citer l'Australie qui a du coup interdit les réseaux sociaux au moins de 16 ans, et j'estime que c'est plutôt une bonne idée, notamment avec les horreurs qu'on peut retrouver, mais aussi avec les propagandes où les gens n'ont pas leur propre opinion. Certaines personnes ressortent des choses alors qu'elles sont fausses. Les fake news circulent avec une telle facilité. C'est assez effrayant de voir à quel point on a accès à ce genre de choses. Finalement, quelle responsabilité avons-nous en tant que spectateurs et internautes ? Lucas.
En tant qu'internaute, il faut comprendre que c'est pas parce qu'on n'est pas en train de marcher dans la rue qu'on ne peut pas nous reconnaître, malgré le fait que tout le monde pense être anonyme sur Internet. On a la possibilité de nous retrouver. Ce sont certes des moyens qui ne sont pas mis en place aujourd'hui, mais qui pourraient l'être à l'avenir vis-à-vis de l'ampleur que prend justement le cyberharcèlement et les lynchages médiatiques.
Très bien, Mathieu, un petit mot.
Bon, franchement, j'ai rien à ajouter. Juste pour le cyberharcèlement, ce serait bien que dans les écoles ou à tout niveau scolaire, amplifier encore plus l'aide aux jeunes, et puis voilà.
Ok, et effectivement, malheureusement, des sujets comme ça, on en retrouve de plus en plus, notamment il y a une polémique vis-à-vis du couple Michou et Elsa Bois. Cette dernière subit de nombreuses choses, mais néanmoins, c'est une situation parmi tant d'autres. Avant toute chose, nous vous conseillons aussi de regarder du coup les deux vidéos afin que vous puissiez faire votre propre avis. Je voulais aussi revenir sur une autre vidéo que Pierre a publiée récemment qui s'appelle « La véritable histoire du comte de Mantes et Cristaux ». Ce dernier, dedans, nous fait une parodie de tout ce dont Sylvain a été victime. Et qu'est-ce que tu en penses, Nils ?
Eh ben moi, pour avoir vu quelques extraits, je pense qu'il a bien fait de tourner ça comme ça et le prendre un petit peu, pas à la rigolade, mais voilà, justement pour en dérision par rapport à Sylvain. Parce que justement, quand on voit quand il rentre dans la pièce, dans son château, là, parce que c'est le comte, il rentre dans la pièce et on voit sur le mur, donc la toile, tout, voilà, tout est lié. On voit tous les commentaires qui sont affichés au mur et on voit qu'il a un visage qui est, comment dire, oui, il est un peu abasourdi. Il en a les bras ballants, quoi, parce qu'il comprend pas. Voilà. Et moi, je pense qu'il a bien fait.
Effectivement, moi je partage tout à fait ton avis là-dessus. Malheureusement, lorsqu'on dit quelque chose à une personne, si c'est juste de vive voix, cette chose n'est pas gravée. Alors que sur Internet, en fait, qu'importe, même si vous supprimez un message, il y a toujours moyen de le retrouver via des données et des manipulations informatiques. Lucas, est-ce que tu penses que le duo peut avoir et estimer avoir une fin honorable où c'est fini et les deux seront liés pour se battre éternellement, pardon.
Ben, l'objectif, quand initialement Pierre et Sylvain se séparent quelques années en arrière, c'était justement d'offrir une fin honorable à la chaîne Vilvoquin. Malheureusement, ça a pris des tournures assez disproportionnées. Et on peut reciter la vidéo justement du conte de Monte Cristo où Pierre arrive à prendre ce cas particulier en autodérision, malgré le fait que ce soit très fort de sa part de le réaliser. On peut penser que c'est au final remettre une pièce dans la machine dans quelque chose qui aurait dû s'arrêter bien avant.
Et effectivement, je suis bien d'accord. Le nom de notre émission était Le Comte de Monte Cristo, en lien du coup à une affirmation que Sylvain nous avait dit dans sa vidéo. Pierre aurait utilisé, il semblerait, des cristaux de menthe et se serait frotté au niveau des paupières et se leur a créé des fausses larmes. Si vous voulez faire du cinéma, voici une petite astuce que vous pouvez utiliser dans tous les jours. Néanmoins, on arrive à la fin de notre émission. On a vu l'exposition médiatique peut être à double tranchant. D'un côté, elle permet aux créateurs d'exister, mais de l'autre, elle peut les broyer en quelques jours. Alors la vraie question est-ce que l'on ne devrait pas tous réfléchir avant d'agir en ligne? Nous touchons à la fin du coup de notre épisode sur Vilebrequin, un duo qui a marqué l'histoire de l'automobile sur YouTube en France. J'étais en compagnie de Mathieu, de Nils et de Lucas, ainsi que moi-même Basile. On vous laisse à présent avec le trésor du film Le Comte de Monte Cristo.